Vous écoutez, on lit pour vous.
Look haut de gamme, pas cher et pas sécuritaire. Un texte de Marc Soucieux, paru le 21 septembre 2025 dans la presse. Un vélo, ce n'est pas qu'un cadre et deux roues. C'est une machine conçue pour être rapide et légère, mais surtout sécuritaire. Sa fabrication demande près de 40 heures de travail précis, suivies de tests rigoureux. Parce qu'à pleine vitesse, une fissure peut vite tourner au danger. Cet aspect de la sécurité est celui qui écope le plus sur le marché de la contrefaçon. Sur Facebook Marketplace, AliExpress ou Amazon, des cadres, des roues et même des casques reprennent l'allure des grandes marques. Les faussaires inondent le web de répliques à prix alléchant. Or, leur fiabilité n'est qu'une impression. Dominique Belair en a déjà fait l'expérience. Ce cycliste amateur, qui parcourt des milliers de kilomètres chaque été sur sa monture, a lui aussi été tenté par l'aubaine. Il a commandé en ligne un cadre en carbone qui copiait un Pinarello haut de gamme. Le prix? 10 fois moins cher que l'original. À l'œil nu, impossible de voir la différence. Mais une fois sur la route, les limites se font sentir. Le cadre manquait de rigidité, de légèreté et de fiabilité. Quelqu'un qui ne les compare pas côte à côte ne verra jamais la différence. Mais pour moi, le doute pour la sécurité était toujours là, dit-il. Il a quand même roulé plusieurs étés avec ce vélo. Bien qu'il n'ait pas subi de bris majeurs, il n'a jamais eu l'esprit tranquille. On peut dire que c'était un cadre bas de gamme au look très haut de gamme, tranche aujourd'hui le cycliste. Pour Jacques Sénéchel, rédacteur en chef de Vélomag, une nuance s'impose. Un vélo bas de gamme, c'est plus lourd, moins performant, mais il reste sécuritaire, explique-t-il. Une contrefaçon, c'est une copie qui imite les logos des grandes marques. Dans la majorité des cas, la qualité est médiocre. Contrairement à une croyance répandue, ces faux ne sont pas des excédents d'usine écoulés discrètement. Les ateliers qui les produisent n'ont pas à se conformer aux mêmes normes que les grands fabricants. Leur seul objectif est d'imiter l'apparence sans se soucier de la qualité. Opération complexe. Fabriquer un cadre de vélo en carbone ne s'improvise pas. C'est une opération complexe qui comporte plusieurs détails et c'est justement là que les contrefaçons échouent. Louis Laberge-Lebel, professeur de génie mécanique à Polytechnique Montréal, explique que les vélos modernes sont fabriqués à partir de feuilles de fibres de carbone pré-imprégnées de résine, enroulées autour de ballons gonflables, avant d'être insérées dans un moule métallique. Sous l'effet de la chaleur, la résine commence à se liquéfier avant qu'une réaction chimique la fasse durcir. C'est lorsque la résine est liquide que le ballon se gonfle, plaquant les couches contre les parois pour donner naissance au cadre. Tout se joue dans l'agencement de ces couches. Plus il y a de plis, plus le vélo devient lourd, résume le professeur. L'orientation des plis choisis permet d'obtenir différentes réponses mécaniques et d'ajuster ainsi la rigidité et la solidité du cadre. Une copie peut facilement reprendre la forme extérieure d'un vélo sans respecter les plans d'ingénierie. Ainsi, une contrefaçon peut avoir moins de matière, des fibres mal disposées ou des cycles de cuisson approximatifs. Elle peut sembler identique, mais réagira autrement sous l'effort. Sans test en laboratoire, il est impossible de savoir l'authenticité du vélo, déplore M. Laberge-Lebel. Un acheteur n'a tout simplement pas accès à l'équipement nécessaire pour mesurer les caractéristiques du matériau composite à fibres de carbone qui constitue le cadre du vélo. La chasse aux faux. L'entreprise Specialized connaît bien ce problème. L'entreprise américaine est aujourd'hui la marque des vélos la plus copiée du monde. Ses modèles, notamment ceux qui brillent au Tour de France, sont les plus souvent copiés. Le danger, rappelle Andrew Love, directeur mondial de la protection de marque chez Specialized, c'est que ces copies n'ont jamais été soumises au moindre test. Ces contrefaçons tentent de reproduire des produits vraiment légers et hautement conçus. Ils craquent, ils ne durent pas longtemps et il n'y a aucune garantie, prévient-il. Certains sont si fragiles qu'ils se brisent d'une simple pression. Tu es capable de briser certains faux guidons avec tes mains, affirme Andrew Love. Monsieur Love a d'ailleurs publié une vidéo sur Facebook il y a quelques années dans laquelle on le voit déformer un guidon avec une facilité désarmante. En mars dernier, Specialized a participé à un raid en Chine qui a permis de retirer du marché pour plus de 1 million de dollars en faux cadres et 538 guidons contrefaits. Ce n'était qu'une opération parmi les 27 déjà effectuées en Chine. Au total, l'entreprise affirme avoir fermé plus de 1700 annonces Facebook et 250 sites frauduleux. Ces contrefaçons n'offrent pas une solution de rechange abordable, mais une illusion dangereuse. Comme le mentionne Jacques Sénéchel, les gens s'achètent une image de marque, une image qui, sur la route, peut coûter cher. Comment repérer les vrais vélos? Achetez local. Allez magasiner à votre magasin local de cyclisme. S'il y a un problème, vous pourrez regarder quelqu'un directement dans les yeux. Et ça n'a pas de prix, souligne Andrew Love. Vérifiez le numéro de série. Les marques comme Specialized, Pinarello et Colnago permettent de confirmer l'authenticité directement sur leur site. Méfiez-vous des prix trop beaux pour être vrai. Un cadre de grande marque à une fraction du prix officiel est suspect. Évitez les plateformes généralistes. C'est super facile de tomber sur des arnaques en ce moment, avertit Andrew Love, qui conseille de se tourner vers un modèle plus ancien si le prix est un enjeu. Les vélos datant de quelques années sont souvent beaucoup moins chers, toujours de bonne qualité et offerts par des détaillants fiables. C'était « Look haut de gamme, pas cher et pas sécuritaire », un texte de Marc Soucieux paru le 21 septembre 2025 dans la presse.
Ces auteurs qui tiennent la route, Jean-Simon Desrochers. Un texte d'André-Anne Perron, paru le 21 octobre 2024 dans les libraires. Entre réinvention et résonance. Nous voici en octobre. Cette entre-saison où le temps prend plaisir à se suspendre entre la chaleur révolue de l'été et les promesses frigides de l'hiver. Dans cette atmosphère de liminalité, difficile de ne pas repenser à ce livre qui, au même moment, il y a plus d'une décennie déjà, faisait son entrée dans le monde littéraire. La canicule des pauvres, Les Herbes Rouges 2009, célèbre ce mois-ci ses 15 automnes et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Simon Desrochers, passé maître dans l'art de la polyphonie, s'impose comme l'une des voix les plus singulières de la littérature québécoise contemporaine. À peine quelques semaines suivant la sortie de son 9e roman, « Le masque miroir », publié aux éditions du Boréal, revisitons une démarche qui se distingue non par une succession de coups d'éclat, mais par une cohérence et une perspective qui défient le temps. Après un début de carrière prometteur, consacré presque exclusivement, si ce n'est que de quelques essais et nouvelles, à la poésie, L'obéissance impure et Par le seul, Les Herbes Rouges 2001 et 2003, Desrochers s'attarde, pas moins d'un an durant, à l'élaboration du microcosme que deviendra le galant, l'immeuble délabré, qui campe la majorité de la diégèse de la canicule des pauvres, de même qu'au déploiement de sa structure faramineuse. Le fruit de cette préparation atterrira dans les librairies de la province à l'automne 2009. Si l'audace de miser gros dans un premier roman se heurte, la plupart du temps à un jugement critique défavorable, ce n'est toutefois pas le traitement que reçoivent Desrochers et son pavé de 672 pages abritant pas moins de 26 personnages. Bien au contraire, ce sont sa maîtrise de la polyphonie, devenue dès lors sa signature, son ambition narrative ainsi que sa rigueur intellectuelle qui retiennent l'attention de la presse et des lecteurs. Il va sans dire que depuis le début, sa force réside dans sa capacité à créer des œuvres où la multiplicité des points de vue ne se limite pas à un simple jeu de style, mais enrichit le tissu même du récit. La production romanesque de Jean-Simon Desrochers renferme de bien belles choses, à commencer par ce désir d'exploiter sans détour des existences déchues à travers une démarche hyper réaliste, brute. Vouloir y coller des traits purement balzaciens, comme certains l'ont fait, serait en méconnaître l'essence, car ce qui fonde la beauté de son travail, c'est l'intelligence derrière une structure kaléidoscopique aussi audacieuse que déployée en toute finesse. À l'opposé de ce prédécesseur, Desrochers se distingue par une architecture où l'action n'est, de manière générale, pas portée par un seul héros. Tous ses personnages le sont. Tant les 26 locataires du Galant dans La canicule des pauvres, les 13 acteurs impliqués dans le carambolage du sablier des Solitudes, Les Herbes Rouges 2011, que la poignée d'habitants du quartier reliés de près ou de loin à la disparition de Xavier Boutin-Langlois dans les 2 tomes de L'année noire, Les Herbes Rouges 2017, se singularisent par leurs différences, âge, ethnie, niveau de scolarité, valeurs, etc. Même si ces disparités créent un flux d'idéologies qui se complètent et se contredisent, aucun d'eux ne ressort du lot. Aucun d'eux n'est dominant, aucun d'eux n'impose une seule et unique vision. Cette exploration perpétuelle de la multiplicité et de l'égalité des voix, présente dans la majorité des romans de l'auteur, est évidente dès le premier, alors que nous sommes transportés au cœur d'un bassin de protagonistes dont les vies s'entremêlent, s'entrechoquent et se répercutent dans une fresque humaine criante d'authenticité. Chaque conception du monde, aussi insignifiante soit-elle en apparence, participe à la construction d'un univers où les destins se lient et se délient, mais par-dessus tout, où la solitude, bien qu'elle prévale sur le vivre ensemble, est toujours en dialogue avec l'altérité. Cette façon de faire instaure à l'œuvre une dimension de système, une véritable fourmilière où les figures s'entrecroisent, où les récits se superposent pour créer une structure complexe qui transcende les attentes traditionnelles du lecteur. Difficile de ne pas sourire lorsque Monique, propriétaire du Galant dans La canicule des pauvres, se remémore sa maison de banlieue dans « L'année noire », tome 1. Les inquiétudes. Le dilemme pour la vendre la rongeait dans le premier roman, mais l'issue y demeurait inconnue. Difficile de ne pas sourire également lorsque nous apprenons dans « Les limbes », « Les herbes rouges » 2019, que le bordel où se déroulent plusieurs scènes s'avère être le Galant, dans une époque lointaine. Ces révélations, imperceptible pour le néophyte, enchanteresse pour celui dont les codes sont acquis, brouille les frontières entre les livres et nous plonge dans une micro-société si habilement ficelée qu'elle s'alimente elle-même. Ces couches de sens ne peuvent qu'être découvertes à qui veut bien s'aventurer dans l'entièreté de la production de Desrochers qui, malgré son caractère foisonnant, demeure d'une grande accessibilité et est issu d'une démarche littéraire unique au Québec. Il est fascinant de constater comment, au fil des ans, l'œuvre de Jean-Simon Desrochers s'est constituée en un ensemble logique et méthodiquement réfléchi, tout en dialoguant avec des questions sociétales essentielles. Chaque roman, loin de se limiter à une simple itération, s'inscrit dans une continuité thématique et stylistique comme il s'en fait peu. De « La canicule des pauvres » au « Masque miroir », son travail se distingue par une profondeur et une perpétuité qui méritent d'être saluées. Le « Masque miroir » s'imbrique d'ailleurs avec justesse au sein de cette filiation. À vous de découvrir. Dans un paysage littéraire en constante évolution, où l'abondance de nouveautés peut faire ombre aux voies bien établies, Jean-Simon Desrochers s'affirme comme un auteur qui est là pour rester, en parvenant notamment à poser un regard sur le monde qui nous entoure comme peu savent le faire, sans artifice ni condescendance, subversif mais empreint de lucidité. 23 ans après la publication de « L'obéissance impure », ses écrits, toujours trop peu connus du grand public, ne cessent néanmoins d'être redécouverts et jusqu'à tout récemment réédités chez Boréal. Nous ne pouvons que souhaiter que ceux-ci résonnent encore longtemps à la hauteur de l'attention qu'ils méritent. C'était « Ces auteurs qui tiennent la route », Jean-Simon Desrochers, un texte d'André-Anne Perron paru le 21 octobre 2024 dans Les Libraires.
Afrique mode lève le rideau sur la mode africaine post-coloniale. Un texte de R. Pratka, paru le 24 septembre 2025 dans le magazine Fugue. Les visiteurs qui assisteront à l'exposition Afrique mode au musée McCord Stewart peuvent anticiper un voyage décolonial, parfois dégenré et souvent déroutant à travers l'histoire récente de la mode africaine. Présentée en exclusivité canadienne, l'exposition a été conçue par et pour l'un des musées de mode et de design les plus prestigieux au monde, le Victoria et Albert Museum, V&A, de Londres. Après avoir été présentée au V&A de juillet 2022 à avril 2023, elle arrive au McCord Stewart après des escales à New York, Chicago, Portland et Melbourne. L'exposition commence à l'aube des mouvements de libération post-coloniaux en Afrique dans les années 1950 et 1960 avec une exploration de certaines techniques textiles traditionnelles. À partir de là, un voyage à travers des dizaines de pays attend le visiteur, mettant en vedette la mode, la musique, la photographie et les arts décoratifs africains post-coloniaux. Selon le V&A, l'exposition souligne le rôle fondamental que les textiles, les vêtements et les parures corporelles ont joué dans les cultures africaines et la façon dont la mode est devenue une force puissante pour l'expression de soi post-coloniale, attirant l'attention internationale par sa créativité sans limite. Le travail des pionnières et pionniers du design africain, comme la créatrice de mode marocaine Naïma Benis, la Nigériane Chad Thomas Pham, considérée comme la première créatrice de mode moderne du Nigeria, le créateur et promoteur de mode malien Chris Seydou et le designer britannique ghanéen Kofi Ansa y est mis en valeur. On y retrouve aussi celui de designers contemporains comme Iman Ayissi, reconnu pour ses fusions entre textiles africains et haute couture française. L'art que l'on porte de la maison nigériano-ghanéenne Yamisigo, qui met en valeur des techniques millénaires dans un contexte moderne, le luxe éthique rwandais de Moshion, ainsi que les pionniers sud-africains de la mode féminine Tebe Magugu et Sindiso Kumalo. Malgré le climat politique hostile à l'homosexualité et à la transidentité dans plusieurs pays d'Afrique, certains concepteurs, comme les Nigérians d'Orange Culture ou encore l'artiste-photographe djiboutien, explorent l'androgynie et l'ambiguïté de genre. Le Sud-Africain Rich Mnisi incorpore explicitement des symboles de la fierté dans ses œuvres, un rappel puissant que les orientations sexuelles et identités de genre non traditionnelles ont toujours existé en Afrique, même si elles sont souvent caractérisées à tort comme des aberrations occidentales. Les couleurs, d'ailleurs, ne sont pas genrées. Il est courant de voir hommes, femmes et enfants vêtus de toutes les couleurs, dans des habits confectionnés à partir de textiles traditionnels par le tailleur ou la couturière du coin. Notre principe directeur pour Afrique Mode est de mettre en avant les voix et les perspectives individuelles africaines, explique Christine Chesinka, conservatrice principale des textiles et de la mode africaine et de la diaspora africaine au Victoria et Albert Museum dans une description de l'exposition. Afrique Mode présente la mode africaine comme une forme d'art identitaire qui révèle la richesse et la diversité des histoires et des cultures africaines. Présenter toutes les modes d'une région aussi vaste serait un pari impossible. Afrique Mode célèbre plutôt la vitalité et l'innovation d'une sélection de créateurs de mode, explorant le travail de l'avant-garde du 20e siècle et les créateurs au cœur de cette scène éclectique et cosmopolite d'aujourd'hui. Nous espérons que cette exposition suscitera une redéfinition de la géographie de la mode et changera la donne dans ce domaine. En plus de la mode, la joaillerie et la photographie de studio, particulièrement populaires en Afrique de l'Ouest post-coloniale, sont aussi explorées. Pour Alexis Walker, conservatrice adjointe du costume, de la mode et des textiles au musée McCord Stewart, travailler sur l'exposition a été une expérience d'apprentissage qu'elle souhaite maintenant partager avec le public montréalais de toutes origines. Les expositions du V et A sont époustouflantes, à la fois au niveau de l'expérience visuelle pour les visiteurs et au niveau de la recherche, relate la conservatrice. Quand j'ai vu l'exposition à Londres, j'étais renversé. J'ai acheté le catalogue et j'ai achalé tout le monde ici pour qu'on la fasse venir chez nous. Elle n'a pas de racines africaines et n'a eu que très peu de contact avec les traditions esthétiques africaines au cours de ses études. Je travaille dans la mode, à la fois dans les musées et dans l'industrie en tant que designer, depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai l'impression de bien connaître l'histoire de la mode. Mais avec cette exposition, j'ai été prise au dépourvu, confrontée à ma propre ignorance. Je ne connaissais rien à l'art et à la créativité africain, et je ne pense pas être la seule blanche dans cette position. Elle considère qu'en 2025, il est plus que temps d'avoir une grande exposition de mode qui célèbre la créativité africaine. L'Afrique, c'est plus de 50 pays avec toutes les formes de créativité qu'on peut imaginer. Cette exposition fait éclater les stéréotypes et présente l'art et la mode africaine sous une grande variété de perspectives, ajoute la conservatrice, qui espère que les membres des communautés afro-descendantes et queer de Montréal se reconnaîtront dans l'exposition. Je pense qu'un grand élément de cette exposition est une célébration de l'autodétermination, du fait d'être soi-même, indépendamment de l'oppression, de la colonisation, de la politique, de tout ça, résume Alexis Walker. Info. L'exposition restera au musée McCord Stewart jusqu'au 1er février 2026. C'était « Afrique mode lève le rideau sur la mode africaine post-coloniale », un texte de R. Pratka, paru le 24 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
Trump confirme la fin des négociations avec le Canada. Un texte de Sandrine Vieira, paru le 31 octobre 2025 dans Le Devoir. Je l'aime beaucoup, mais ce qu'ils ont fait était mal, a-t-il déclaré récemment. Le président américain, Donald Trump, a confirmé récemment qu'il ne reprendrait pas les négociations commerciales avec Ottawa, malgré les excuses du premier ministre canadien Mark Carney pour la campagne publicitaire de l'Ontario. Lorsqu'une journaliste à bord d'Air Force One lui a demandé s'il comptait relancer les discussions avec le Canada, le président a répondu « Non, j'ai une très bonne relation avec lui, je l'aime beaucoup, mais ce qu'ils ont fait était mal. » Il a été très aimable, il s'est excusé pour ce qu'ils ont fait concernant la publicité, car c'était une publicité mensongère, a-t-il indiqué devant la presse qui l'accompagnait à bord de l'avion présidentiel. Le locataire de la Maison-Blanche faisait référence à une publicité financée par le gouvernement ontarien de Doug Ford, utilisant un discours de l'ancien président Ronald Reagan diffusé sur les chaînes de télé américaines pour promouvoir le libre-échange. Le discours, datant de 1987, n'avait toutefois subi aucune modification. Frustré, Donald Trump avait brusquement mis fin aux négociations commerciales en cours avec le Canada la semaine dernière, estimant que cette publicité était trompeuse. Vendredi, il a à nouveau avancé que l'ancien président républicain aimait les tarifs et que la publicité ontarienne tentait de faire croire le contraire. Messieurs Carney et Trump se sont croisés en Corée du Sud, en marge du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, APEC cette semaine et ont même partagé un dîner en compagnie d'autres chefs d'État mercredi. Des médias présents sur place ont rapporté qu'ils se sont même échangés sourires et gestes complices en prenant place à la table. Le président Trump a confirmé que le dîner s'était bien déroulé, répétant que son homologue canadien avait présenté ses excuses pour la campagne publicitaire. À l'inverse, le premier ministre Doug Ford a affirmé qu'il ne s'excuserait jamais pour la publicité de 75 millions de dollars commandée par son gouvernement. Face aux droits de douanes américains qui menacent toujours les emplois du secteur automobile de sa province, il a vigoureusement défendu son initiative, la qualifiant de meilleure publicité jamais diffusée. Il a aussi indiqué que Mark Carney et son chef de cabinet avaient bel et bien vu la publicité avant cette diffusion. Des progrès freinés. L'arrêt des négociations est survenu alors que les États-Unis et le Canada étaient en pleine séance de pourparlers commerciaux, notamment pour conclure un accord sur des droits de douane sectoriels concernant l'acier et l'aluminium. Les deux pays étaient même prêts de parvenir à un accord avant la saga de la publicité antitarifaire, a indiqué le premier ministre Carney en début de semaine. Le premier ministre Carney avait gardé la porte ouverte au lendemain de la rupture des négociations, indiquant que son gouvernement restait prêt à négocier dès que les États-Unis seraient prêts à revenir à la table. L'ambassadrice du Canada aux États-Unis, Kristen Hillman, a également souligné que les discussions s'étaient nettement accélérées après la dernière rencontre dans le bureau ovale entre messieurs Carney et Trump le 7 octobre. Nous avons accompli plus de progrès au cours de ces semaines que depuis très longtemps, a-t-elle déclaré cette semaine devant des sénateurs canadiens. Lors de sa comparution, elle a indiqué que les discussions commerciales entre le Canada et les États-Unis étaient effectivement à l'arrêt depuis une semaine. Le président Trump n'a toujours donné aucune précision concernant les droits de douane supplémentaires de 10 % qu'il a annoncés à l'encontre du Canada en réponse à la publicité ontarienne. Il attend peut-être la décision de la Cour suprême des États-Unis qui doit trancher la semaine prochaine sur la légalité de certains droits de douane visant le Canada, le Mexique et la Chine. Les audiences débutent le 5 novembre 2025. C'était « Trump confirme la fin des négociations avec le Canada », un texte de Sandrine Vieira paru le 31 octobre 2025 dans Le Devoir.